La tour penchée de la Vermandie, dédiée à ma fille Laurette. C'était, tu t'en souviens, un soir d'avril. Les aubépines en fleurs jetaient dans ce coin du Périgord une note d'allégresse, comme les feux de la Saint-Jean qui jaillissent sur les collines dans les nuits claires. J'avais au creux de ma main ta petite main, ma Laurette, chaude comme un oiseau. Nous venions de faire une longue promenade à pied et nous allions rentrer à la ferme où ta maman nous attendait. Quand, soudain, au bout d'un chemin caillouteux, se dressa la tour de la Vermandie. Mon grand-père m'en avait parlé jadis, quand je montais sur ses genoux après le repas du soir, mais l'histoire était confuse dans ma mémoire, et quand tu m'interrogeas, « Oh, papa, dis pourquoi la tour est-elle penchée ?» J'avoue que je fus assez embarrassé. Heureusement, nous devions être enchantés ce soir-là. Une brave vieille, c'était sûrement une fée, avait entendu ta demande et tout en gardant ses chèvres bondissant sur l'herbe, ce fut elle qui répondit. « C'est une belle histoire, petite demoiselle, et qui est beaucoup plus vieille que moi. » En ce temps-là, vivait sur ces ruines le baron de la Vermandie. Il commandait à 20 lieues à la ronde et n'était pas tendre pour les pauvres gens. Souvent fois, on l'avait vu à cheval poursuivre le sanglier dans les champs de blé avec sa meute et ses gens. Malheur à qui aurait seulement murmuré contre le baron, les pires châtiments l'attendaient. Et l'on se demandait, avec un peu d'ironie, comment cet homme si cruel avait pu avoir une fille si différente de lui. Sibylle avait 16 ans lorsque commence cette histoire et on n'avait jamais vu si belle et si sage enfant. Elle n'était sortie du château que de rares fois et en cachette lorsque son père était à la chasse. Alors, il fallait la voir gambader et faire la folle dans les champs. Quelquefois, elle s'était aventurée jusqu'à la ferme de Fompeyre où les gens l'avaient accueillie avec la joie que vous pensez. On l'avait bourrée de miques de seigle qu'elle avait dévorée avec appétit. « Revenez, petite demoiselle, revenez !» lui disait la vieille paysanne, et c'était le cœur de toute la maison. Ouida, elle aurait bien voulu revenir, malgré les objurations de sa nourrice, mais ses escapades furent rapportées à son père, qui donna l'ordre formel pour qu'elle ne puisse plus franchir le pont-levis. Et pour ne plus avoir de soucis, il décida de la marier. Un matin, il ordonna qu'on lui amenât Sibylle. La jeune fille s'avança vers son père avec au coin des lèvres un faible sourire, un peu forcé, mais qui n'aurait pas demandé mieux que de s'épanouir. Il aurait suffi d'un simple geste de cet homme et elle se serait précipitée dans ses bras en sanglotant et tout aurait été oublié, tellement elle avait en elle, comme tout mortel, une grande soif de bonheur. Mais hélas, le cœur du Seigneur était de pierre. Sans l'embrasser, le regard froid, il lui annonça qu'il avait décidé de la marier au comte de Montignac. La surprise de Sibylle fut si grande qu'elle resta muette. Et son père, habitué à être obéi sur le champ, prit son attitude pour un acquiescement. « Tu as une semaine pour préparer tes robes, dit-il. Va et attends mes ordres. » Alors la jeune fille parla. Elle n'éleva pas le ton. Et ce fut de sa petite voix douce et charmante qu'elle répondit. « Père, je n'épouserai pas le comte de Montignac. » Le baron faillit s'étrangler de fureur et la bienséance ne me permet pas de dire tout ce qu'il hurla aux oreilles de Sibylle. Loin de l'apaiser, le calme de sa fille ne fit que l'enrager davantage. « Comment, se disait-il, moi qui ai vu fléchir devant moi toute volonté, je serai mis en échec par une enfant et ma fille encore ?» Il regardait Sibylle avec étonnement. Comment trouvait-elle la force de lui résister ? « Aimerais-tu quelqu'un ? » rugit-il à bout d'arguments. « Oui, père, j'aime François le troubadour et je veux l'épouser. »« Jamais !» fut la réponse qui jaillit comme un coup d'épée. Et comme Sibylle courbait la tête en silence, un mauvais sourire plissa le visage du baron. « Je pense d'ailleurs que tu changeras d'avis. Je pars demain pour un mois et je vais donner des ordres pour que tu ne puisses réfléchir en toute quiétude. En mon retour, nous aviserons. » Et d'un geste sec, il congédia Sibylle. Je vous laisse à penser ce que fut la nuit de la pauvre enfant et quelles larmes amères elle versa. À l'aube, elle entendit dans la cour du château des hennissements de chevaux. Le nez collé au vitrail de la fenêtre, Elle aperçut au milieu de ses écuyers son père debout sur ses étriers qui donnait ses derniers commandements. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. C'était sa nourrice tremblante d'émotion qui lui annonça que selon les ordres de son père, on allait venir la chercher pour l'enfermer dans la tour de la Vermandie. À deux lieues du château se dressait cette tour de guetteurs dominant la vallée. Et la méchanceté du baron avait décidé de faire vivre désormais Sibylle dans cette solitude. Imaginez cette scène navrante et pitoyable, la jeune fille, presque une enfant, frêle silhouette vêtue de blanc, marchant de son pas léger d'oiseau entre deux lourds archers aux cuirasses étincelants sous le soleil. Autour d'eux, la campagne verdoyante et chantante. Les prés verts ondulant sous le vent comme des vagues de haute mer et l'ombre glauque des châtaigniers, si bienfaisante aux épaules fatiguées. Bientôt, la tour fut là. Le guetteur, entre les créneaux, salua la petite troupe et l'on entendit sa course sonore le long des escaliers de pierre. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Sibylle sentit une dernière fois le soleil inonder sa nuque, puis elle entra dans l'ombre humide et glacée. Ce fut comme un manteau d'angoisse jeté sur ses épaules et cette main de fer qui broyait sans le savoir son bras frêle. La grille du château se referma sur elle. Sa nouvelle et triste vie commençait. Une seule meurtrière laissait voir un mince carré de ciel et durant de longues heures, Sibylle regardait passer les nuages et les oiseaux. Deux fois par jour seulement, matin et soir, son gardien devait la conduire pour la promenade sur la plateforme de la tour. Parfois, il la laissait seule un instant. Il savait qu'elle ne pouvait fuir perdue entre ciel et terre et Sibylle pouvait jouir parfaitement de ces minutes. Malgré sa peine, elle se sentait légère et souriait à la lumière et à la vie. Un matin, qu'elle rêvait devant les lointaines collines bleues, elle vit un cavalier galopant sur son cheval blanc. C'était François, le troubadour. Elle agita son écharpe blanche et François lui répondit. Sibylle sentit son cœur bondir dans sa poitrine et des larmes de joie inondèrent son visage. Le cavalier s'approcha. Pendant de courtes minutes, les deux jeunes gens ne purent échanger que des regards, mais chargés de tant d'amour. Puis Sibylle rentra vivement sous la voûte pour ne point éveiller le doute du guetteur. Quelle merveilleuse nuit passa-t-elle dans son château. Jamais son oreiller de pierre ne lui avait semblé si doux. L'ombre même de sa cellule lui paraissait agréable. La nuit passa très vite, plein de rêves fous. Sibylle était sûre maintenant que François la sauverait. Elle ne voulait plus penser que la terrasse était à 200 pieds du sol, qu'elle n'avait ni échelle ni corde, mais un gardien vigilant. Elle savait que François la sauverait. Et dans ses yeux souriants se leva bientôt la clarté pâle du matin. Exact au rendez-vous, le cheval blanc piaffait au bas de la tour lorsque Sibylle sortit de sa cellule. Un cri joyeux salua son apparition. Debout sur ses étriers, François l'appelait. À ce moment, un juron ébranla l'air tranquille. Le gardien franchissait l'entrée de la voûte et il voyait les deux jeunes gens qui se tendaient les bras. L'archer bondit et voulut tirer Sibylle en arrière, mais les mains crispées au bord de la terrasse, la jeune fille résistait de toutes ses forces. Alors, le miracle se produisit. Avec des bruits sourds de pierres brisées et de fer tordus, lentement, lentement, la tour se pencha. Interdit, le gardien lâcha Sibylle et courut prendre ses armes. La tour s'inclinait toujours comme pour saluer le jeune troubadour qui se tenait droit sur son cheval blanc. Presque fou, l'archer se mit à sonner de l'olifant pour appeler à l'aide les gardes du château. Mais la tour continuait à se pencher jusqu'au moment où la jeune fille put se jeter dans les bras du cavalier. Un tendre baiser unit les deux jeunes gens. Tenant Sibylle serrée contre sa poitrine, François lança son cheval en avant et ils eurent bientôt disparu à l'horizon des collines bleues. Et plus tard, après la mort du baron, en souvenir de ce miracle, François fit graver au fronton de la tour cette deux belles devises qu'on peut encore lire aujourd'hui. Nous nous aimerons, même si le monde entier luttait contre nous.